affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
Wakarimasu, Jan.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonjour à toutes et à tous, on vous retrouve pour la 114e émission de D'étoiles plein les yeux. Aujourd'hui, on vous parlera du dernier film de François Ozon, Grâce à Dieu. Avant de vous parler avec Marie du film du premier film de Moati sorti le 13 février, Deux fils, avant de terminer sur les conseils de la semaine avec Ellie. Donc aujourd'hui, ce sont les yeux de Marie, Martin et Ellie. Et la toile, c'est bien le dernier film de François Ozon, Grâce à Dieu.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant.
Il t'a vu?
Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants?
Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret.
Je suis horrifié par ce que vous me dites.
Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre.
Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre.
Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner?
Mais je suis sûr qu'il en existe.
Il y a une plainte qui a été déposée contre Prénat.
Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque chose.
Faut réunir d'autres victimes.
J'attends depuis toujours ce moment que je puisse enfin tout raconter moi aussi.
Mais c'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prénat? Ouais, je porte plainte.
On a donc choisi de vous parler du dernier film de François Ozon, qui est un réalisateur assez prolifique et au style très très différent, qui ose l'artificialité parfois ou le dépouillement dans d'autres cas, la comédie sociale, et cette fois-ci donc un film un peu plus lourd sur un thème d'actualité, donc la pédophilie dans l'église. La bande-annonce est assez explicite sur l'histoire principale du film, hein, c'est avant tout l'histoire d'Alexandre qui décide de porter plainte contre le père Prénat. Et donc, il est rejoint par une série de victimes, elles aussi, qui vont décider de fonder une association, La Parole Libérée. Donc aujourd'hui, on vous parle de ce film. Qu'en avez-vous pensé? Peut-être, Ellie, pour commencer.
Oui, bah alors, je l'ai vu hier soir, et j'en ai un bon souvenir. J'ai plutôt aimé, j'avais beaucoup de réserves, on va dire, a priori. Surtout, ça fait un petit moment que je vois traîner la bande-annonce avant, quand je vais au cinéma, et à chaque fois, elle me... Enfin, j'avais pas très envie de voir ce film, quoi. Ça me rendait assez sceptique.
C'était
les extraits qu'il montrait, c'était très explicite, très. Et comme le début du film lui-même, je trouve que j'ai eu peur, tu sais, quand à cette première partie, surtout avec Melville Poupeau, là, je trouvais ça lourd, et puis finalement, ça m'a embarqué.
Peut-être un peu cliché, en tout cas, dans la bande-annonce. Et,
oui, c'est que tout est là, tout est dit, tout est. Donc.
Voilà. Et finalement.
Finalement, ça m'a séduit sur le. Sur le long terme.
Donc on arrive à dépasser ce côté un peu entendu que laisse penser la bande-annonce.
Oui, disons que c'est un point de vue, et comme il est assumé tout au long, on peut arriver à faire quelque chose avec, quoi.
Martin, c'est ta vie ?
Alors moi, je l'ai vu il y a un peu plus longtemps, et j'y suis allé au départ parce que j'ai suivi la polémique qui est apparue avec la sortie de ce film, avec les volontés de censure. Si on peut dire ça. Et j'avoue que j'ai été très déçu. J'ai trouvé le film très long. Le côté dramatique qu'il essaye de donner parfois est noyé sous l'accumulation des témoignages et aussi peut-être toutes les démarches administratives que les personnages ont à faire. On passe d'un personnage à un autre. J'ai pas trouvé que les personnages soient particulièrement caractérisés. Et donc on oscille en fait entre un côté très documentaire et un côté plus fiction, sans arriver vraiment à choisir entre ces deux facettes.
D'accord. Marie, t'en dis quoi? Un avis?
Alors oui, moi un peu comme Martin, mais plus positif, je dirais que j'ai effectivement, comme Ellie, j'avais un peu peur en voyant la bande-annonce d'un film très documentaire, très sage, très didactique, avec vraiment qui colle au fait et qui finalement nous touche pas vraiment, même si le sujet, bien sûr, ne peut que nous toucher. Mais je veux dire, on aurait pu craindre un film qui qui en reste au fait et qui soit pas vraiment touchant. Et par contre, je trouve que Martin l'a dit, certes, il y a un peu les deux côtés, à la fois documentaire et fiction, et j'ai trouvé que justement le film dépassait le côté simplement documentaire pour être quand même un film humain, un film qui reste à hauteur d'homme et un film qui quand même arrive à nous procurer des émotions, des sensations. On s'attache un peu on s'attache au personnage, on arrive à comprendre un peu les dessous des simples faits, et donc j'ai trouvé qu'en fait cette oscillation un peu permanente entre donc dont tu parles, Martin, entre documentaire et fiction était plutôt convaincante pour moi.
Oui, puis il y a une vraie richesse des personnages malgré tout. Pour le coup, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, mais sur la profondeur des personnages, ils sont assez typés. Justement, Melville Poupeau, moi j'ai eu du mal au début, je me disais il est à côté de son personnage et tout, mais finalement on rentre un peu dans son système et dans son système de pensée, et en fait le côté un peu coincé qu'il a au début correspond très bien à son personnage. Le casting pour ça est assez exemplaire, enfin je trouve que chacun habite bien son personnage, quoi, et ils sont effectivement très différents. Mais cette différence est très travaillée. Enfin, je trouve que justement, il n'y a pas tant que ça des témoignages très très divers. Enfin, je veux dire, surtout vers la fin, on entend de plus en plus de témoignages, mais ceux qui comptent réellement, on les voit bien, quoi. C'est des personnages principaux qui sont très campés, non ?
Oui, je pense que l'effet est pas mal voulu, en fait, de passer d'un personnage à un autre. On commence justement à être Alexandre Guérin, on passe à un autre personnage, puis encore un autre. Et moi, j'ai eu je l'ai ressenti comme un peu frustrant, en fait. Au moment où on arrive à comprendre, justement, à rentrer dans le système de pensée d'Alexandre Guérin, on va passer à un autre personnage et on va devoir redécouvrir un personnage. Et du coup, au troisième changement de personnage, moi, j'ai commencé à trouver ça un peu poussif.
D'accord.
C'est mon...
Tu aurais voulu qu'il approfondisse vraiment un point de vue. Parce que là, c'est vrai que ça fait vraiment galerie.
Mais d'un autre côté, on n'a pas l'impression qu'il les survole. Enfin, moi, j'ai vraiment... Et tu l'as dit, on finit par comprendre le système de pensée de chacun des personnages. C'est quand même pas un exploit, mais c'est une réussite.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme... Il les laisse un peu à côté quand ils passent aux autres. Ils sont toujours là à travers leur cause, la parole libérée. Enfin, tu les retrouves dans les scènes de groupe. Mais c'est comme, effectivement, si... Tac, t'avais trois points de vue et presque trois tons de différents. Peut le décevoir en tant que dans l'expérience de spectateur. Après, c'est intéressant d'un point de vue documentaire.
Dans l'économie de l'enquête et du film, Alexandre Guérin est le point de départ. Enfin, il fallait forcément le dépasser à un moment donné. C'est le point déclencheur, quoi. Donc du coup, c'est plutôt justifié qu'on passe à autre chose. Enfin, il le dit lui-même. Moi, j'ai juste fait la première. Enfin, pour situer, c'est celui qui porte donc la première plainte. Hein. C'est un peu celui qui amorce le film. Donc à un moment donné, le film démarre réellement et c'est là qu'on diversifie les histoires, les parcours et on fait la richesse du film. Il y a quand même beaucoup de thèmes qui sont traités par le film. Il n'y a pas que la pédophilie. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pédophilie ? Il y a là quand même la question du pardon qui est posée, qui est quand même une question assez lourde. S'il y a un des personnages qui se demande qu'est-ce qu'il aurait fait si le père Prénat lui avait... demander pardon, il y en a un autre qui refuse le pardon, enfin voilà, il y a plein de questions éthiques qui sont posées, les questions pour l'Église, son rapport à la justice, il y a quand même, et le sujet principal bien sûr, qu'est-ce que c'est que de parler, que de témoigner, que de dire qu'on a été victime, c'est quand même un sujet lourd qui a priori moi m'attire pas forcément dans le cinéma, mais qui est traité avec... sérieux, c'est-à-dire c'est pas lourd, mais
il le partage en fait. Enfin,
oui,
il y a quelque chose de l'indignation et de ça va pas. Il faut que les gens comprennent.
C'est pas forcé, c'est que ça reste subtil, alors que le sujet pourrait ne pas l'être du tout, quoi.
Tu parles juste de subtilité, et je trouve effectivement que les personnages sont pas du tout caricaturaux. On aurait pu verser dans vraiment d'un côté, et on peut avoir peur de ça au début, d'un côté le père de famille catho, tradit, etc. Qu'au début c'est le cas, mais après on apprend à mieux les connaître, etc. Et finalement ces trois personnages, ils servent vraiment quelque chose, et comme tu dis, on apprend à comprendre les relations avec leur famille. Donc on en a un, il n'est pas du tout soutenu par ses parents, l'autre au contraire, c'est ses parents qui le soutiennent dans la moindre de ses actions. Enfin, on a des personnages très différents, mais sans jamais, je trouve, tomber dans la caricature, sans jamais faire un effet de galerie, je trouve, finalement.
Oui, c'est vrai.
Mais même le père Prénat, finalement, il est pas trop, enfin certes, quand on le voit au début la première fois, Bon, on voit, c'est, voilà, il nous dégoûte, etc. Mais après, on voit qu'il a l'air fragile, il est traité comme quelqu'un de malade, etc. Enfin, il y a aussi un travail sur ces personnages qui échappe, je pense, à la caricature et au simple effet de catalogue et de, bah, il faut que je me tienne à l'enquête, donc il faut que je respecte ce qui s'est passé et donc le profil des personnages. Non, il y a une épaisseur en plus et je trouve que, qui donne le côté humain au film. Enfin, je trouve que ça sert vraiment quelque chose, le fait qu'il y ait ces trois personnages.
Mais peut-être aussi, ce qui a pu me déstabiliser, c'est que le sujet du film était plus la difficulté, justement, à témoigner, plutôt que le témoignage en lui-même. Et du coup, c'est vrai que les témoignages sont très présents, mais assez peu développés, assez peu évoqués, ou dramatisés, ou mélodramatisés.
Et tant mieux.
Et tant mieux, d'un autre côté. Mais c'est vrai que du côté... d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue du développement des personnages, moi j'ai pu ressentir quelque chose d'un peu
comme un manque,
voilà.
Je comprends un peu
de
ça,
caractérisation
un peu frustrant
des personnages, comme si on tournait autour d'un personnage sans jamais l'approfondir et rentrer vraiment dans le personnage.
C'est peut-être, enfin, je dirais pas, il y a peut-être, on peut dire que c'est de l'illustration, enfin, quand on parle de cinéma, on dit cinéma illustratif machin, mais c'est un peu ce côté-là des personnages qui font que ce qu'on attend d'eux, enfin, c'est-à-dire ils ne deviennent pas autre chose que il y a pas trop de hors-champ dans le film. Enfin, c'est ce que quand il est là, par exemple dans les espèces de flashbacks où on voit les enfants, c'est des faux hors-champ parce que on voit des gestes et on sait très bien qu'on le verra pas. Enfin,
oui, qui sont assez. Enfin, moi je les ai pas compris parce qu'en fait les scènes sont décrites à l'oral, enfin par la parole des victimes, et ensuite elles sont illustrées par le flashback. Bon, ça c'est vrai que c'était un peu inutile,
peut-être un peu caricatural.
Ça participe de l'effet général de, voilà, on a l'impression peut-être que le film, il porte quelque chose de l'indignation et de, enfin, cette perspective morale, il se met du côté des victimes, mais en même temps, peut-être il redouble peut-être un regard victime, enfin, comment on appelle ça, victimisateur qu'on peut, enfin, je trouve.
Et moi, c'est peut-être un peu aussi cette touche que je lui reproche, en fait, parce que ce genre de procédé, de flashback, nous indique qu'il a envie de partir d'un côté dans un côté plus dramatisant, dans un côté peut-être plus fictionnel, mais plus vrai émotionnellement, et qu'il reste, qu'il s'en tient à ces séquences qui durent 30 secondes à chaque fois, et qu'il ne veut pas aller plus loin, qu'il en reste là.
Mais c'est par touche, par évocation. Enfin, moi justement, c'est pour ça que j'ai aimé le film. Mais après, on a chacun nos points de vue. Mais ce refus justement de la dramatisation est pour moi ce qui m'a convaincu que c'était un film à aller voir, quoi. Et alors, peut-être pour finir, juste l'importance de Lyon, vu qu'on est, on est lyonnais, la ville de Lyon, elle est représentée de façon incroyable. C'est-à-dire que, généralement, c'est ce que je disais à Ellie, enfin, moi, quand je vois un espace que je connais dans un film, je le trouve complètement transformé et très bizarre. Enfin, je le connais tous les jours, et là, d'un coup, il devient un espace autre. Là, la ville de Lyon, j'ai pas du tout ressenti ça, je sais pas à quoi c'est dû, mais les espaces qui étaient filmés, c'était les espaces que je côtoyais, les rues que j'avais l'habitude de fréquenter. Et c'est vrai que Lyon est presque un personnage. On sent vraiment que l'histoire se tient à Lyon, quoi. Oui. Pas uniquement
mais
parce que c'est évoqué.
Justement, peut-être parce qu'il le met pas au centre et qu'il met. Enfin, on parle au début, on voit vraiment Fourvière là.
Oui, mais c'est des rues et on voit bien la géographie du film se dessiner et s'ancrer à Lyon, quoi.
Personnellement, j'ai passé toute la première partie du film à suivre les personnages dans la ville de Lyon.
Bon, alors, est-ce qu'on le conseille, ce film?
Moi, quand même.
Quand même, oui. Oui.
Moi, pas trop, mais.
C'est bon, on va dire.
Visiblement isolé.
C'était notre critique donc du dernier film de François Ozon, Grâce à Dieu, qu'on conseille de façon pas unanime, mais plutôt.
On conseille quand même.
Oui, qu'on le conseille quand même. On passe maintenant au coup de projecteur de la semaine, dans lequel nous allons parler du premier film de Félix Moati avec Marie. J'ai pu assister à l'avant-première qui s'est tenue au Comédia le 30 janvier, et où j'ai pu enregistrer quelques mots de Félix Moati, qui est le mieux placé pour nous présenter son film.
Il est part d'un sentiment très personnel, à savoir, je voulais faire dialoguer le gamin, le souvenir peut-être fantasmé du gamin de 13 ans que j'étais avec le jeune adulte que j'étais en train de devenir quand j'avais 25 ans, qui était tenté par le vide. Et je voulais faire dialoguer cet enfant de 13 ans en quête d'absolu qui est comme une espèce de fanatique un peu, qui se refuse à toute forme de faiblesse, qui pour lui la vie doit de se conquérir comme ça, comme un chevalier en fait, un peu vivant, et avec un jeune homme de 25 ans qui lui du coup s'est confronté au réel et donc à sa propre fragilité et à sa propre désertion, parce que le personnage de Joachim c'est quelqu'un qui a tout déserté et la tentation de la désertion on l'a tous, enfin je veux dire. Et je voulais faire dialoguer ces deux masculinités-là. Parce que moi-même, bah, je ne savais pas quel âge j'avais, quoi, au moment où je l'ai écrit. Et puis, rajouter à ça hein, une figure de père. Et je suis très ému par l'idée qu'à un moment donné, les enfants deviennent les épaules des pères ou des mères. Et c'est quelque chose qui m'émeut, moi, voilà, de voir que, en fait, si on le décide, on peut ne pas être seul. Et qu'on peut recréer du lien. Voilà, c'est un film sur aussi là-dessus, je pense, sur la recréation du lien. Et comme c'est une grande peur que j'ai, moi, la fracture, bah d'ailleurs, je pense que la société française est très concernée par ça en ce moment, bah, je me suis dit, à l'échelle d'une famille, c'est ça qui m'intéresse à représenter. Comment on recrée du lien, comment on sort de nous-mêmes pour aller vers les autres à nouveau. Et comment, ce que disait Pierre tout à l'heure, comment on recrée un espace collectif, en fait. Voilà.
Donc ce qu'on retient surtout de cette soirée avec Félix Moati, c'est surtout l'ambiance qui régnait. Hein, c'est quelqu'un de très très énergique. Enfin, on sent qu'il est voilà hyper content de nous livrer un projet qu'il a nourri depuis quelques temps. On est content, il est content donc de le présenter à son public. Et il sait en parler, il sait très bien en parler de son film, donc pour le resituer, j'ai oublié de dire le titre, c'est évidemment Deux Fils, donc c'est l'histoire évidemment donc, de deux frères, à des âges très différents de leur vie, comme l'a dit Moati, mais pour resituer très, très, très rapidement, c'est un fils de 13 ans qui a une soif d'absolu terrible, qui est amoureux transi et qui est complètement déçu par la mollesse de son frère et de son père. Donc son frère qui est quelqu'un plutôt de déserté, qui survit à une déception amoureuse et qui vient d'arrêter sa thèse de psychanalyse. Et son père donc est tout aussi déserté, qui vient de perdre son frère, qui est un psychanalyste qui lui a arrêté toute activité et qui s'adonne donc à l'écriture, une écriture un peu poussive,
avec peu de succès.
Avec
ouais.
peu de succès, ouais. Et donc c'est avant tout un film sur la famille et sur cet amour indéfectible qui lie les personnages. Voilà, c'est avant tout, même si on sent que dans cette famille les choses ne tournent pas rond, c'est avant tout un film, un grand film sur cet amour filial, et les personnages n'arrêtent pas pendant une heure et demie de se dire qu'ils s'aiment, mais en s'écoutant aux portes, en regardant par les trous des serrures sans se le dire réellement, mais le spectateur le sait à chaque instant, quoi. Les petites étincelles qu'il y a dans le regard à la fois de Mathieu Capella, qui est un acteur formidable, et de Lacoste qui fait du Lacoste, et on perçoit toujours ces petites étincelles là d'amour qui sont là même quand ils fuient, même quand ils partent, même quand ils se disputent, il y a toujours cette tendresse-là qui fait franchement plaisir à voir. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si Marie, tu le partages.
Oui, totalement. Oui, une tendresse. Enfin, vraiment, on sent vraiment, ouais, comme tu dis, une vraie tendresse dans le film, avec un peu d'humour aussi. On n'est jamais dans le dramatique. Enfin, il y a de l'humour partout, même la première scène qui nous montre déjà d'emblée que, enfin, voilà, un peu le genre du film. C'est triste, mais c'est drôle en même temps. Et bon, c'est vrai que pour être le point un petit peu moins positif, peut-être, c'est le fait, on a peut-être un petit peu l'impression que le film, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, mais d'un côté, ça participe aussi au charme du film, parce que bon, il n'y a pas de fil conducteur, comme il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans la vie de ces personnages qui se cherchent totalement.
Mais c'est un moment de leur vie plutôt.
C'est ça, c'est plus, ouais, une tranche de vie, ouais. Ouais, hein, pas vraiment, ouais. Mais pas vraiment d'intrigue qui, quand même, peuvent desservir peut-être un peu le spectateur à certains moments. On se demande où on va, on a des bribes de une scène par-ci, une scène par-là, voilà, sans vraiment quelque chose pour lier tout ça, mais je trouvais que ça apportait aussi un certain charme au film qui était quand même...
Pour abonder dans ton sens, mais malgré tout, en apportant une nuance, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un sens à ce film, c'est que les personnages, pendant tout le film, essayent de chercher comment se réancrer dans leur monde, dans un monde, et c'est l'image de la dernière, du dernier plan où Lacoste regarde Paris et il sourit. Donc Félix Moati expliquait qu'il a choisi de terminer à la dernière minute ce film sur ce plan-là, c'était pas prévu Il y avait une scène énorme qui devait se faire dans une brasserie, ça a été annulé. Et en fait, ça se termine sur ce sourire-là, à la fois parce que Lacoste est un grand ami à Moiti et le rassure dans la vraie vie, ce sourire le rassure. Et d'un autre côté aussi, parce que il est pour la première fois du film serein face au monde, qui comprend mieux, qu'il saisit mieux à son échelle individuelle, tu vois. Donc non, c'est un film qui est porté par ce désir-là des trois personnages de réhabiter le monde, de réhabiter les vivants, parce qu'ils sont tous un peu portés au début du film par quelque chose de très morbide, à la fois la mort du frère, l'amour du Christ, qui est un truc, une lubie pour le plus jeune fils,
oui.
Et voilà le caractère omnubilé du personnage de Lacoste qui ne pense qu'à son amour perdu, quoi. Donc c'est vraiment un film qui parle de comment on arrive à se réancrer et retrouver une place quelque part, tu vois.
Oui. Et qu'il fait, enfin, je crois, avec des acteurs qui sont vraiment vraiment formidables. Ah, enfin, oui. Surtout l'acteur qui joue le plus jeune fils, ouais. Là, qui est.
Ouais, ils sont tous.
Je trouve vraiment, c'est impressionnant et c'est très juste. Enfin, vraiment, on a vraiment des dialogues, enfin que ce soit dans la manière dont c'est filmé, dans les dialogues.
Très bien écrit. Oui, et au-delà de ça, pour parler du, parce que c'est un premier film, et moi ça m'énerve quand on dit dans la critique que c'est un très bon film, un très bon premier film de Félix Moiti. J'ai pas l'impression d'avoir vu un premier film. J'ai vraiment vu un film où déjà on a une signature, un amour des gros plans. Moiti expliquait que c'était un amour des visages de ses comédiens. On a des décrochements aussi par rapport à la narration, des petits moments qui ont plus à voir avec quelque chose de la perception ou du toucher que, par exemple, on voit à un moment donné Lacoste qui écoute les gens autour de lui parler et il s'imagine donc toucher la peau d'une des femmes qu'il trouve sans doute très jolie. Et ça dure quoi? Ça dure 30 secondes, c'est tellement léger par rapport, enfin je veux dire, c'est un décrochage qui apporte de la légèreté à tout le film. Et donc il s'affirme déjà dans ce film-là. Enfin,
ouais, c'est ça, une légèreté et une finesse aussi dans tout le film, avec les que ce soit dans les dialogues, dans les plans, dans l'interprétation des acteurs, vraiment. On n'est jamais dans du lourd, on n'est jamais dans du pathétique, on n'est jamais dans du. Enfin, il y avait plein d'écueils en fait à ce film. Enfin, ça aurait pu être un film vu et revu avec le motif de la famille déchirée plein de choses comme ça, le motif de la rupture amoureuse, etc. On aurait pu tomber dans des clichés, etc. Et là, oui, vraiment, il traite ça avec une finesse
et une sincérité.
C'est pétillant,
c'est
le dialogue, tout est travaillé.
Je pense que c'est ça qui fait aussi la beauté du film, c'est que même si il y en a qui ont trouvé ça ennuyeux parfois, même si on trouve qu'il manque de rythme, ce que je trouve vraiment pas, hein, mais il y en a qui lui reprochent ça, on peut quand même être sûr de quelque chose, c'est que son film est authentique et sincère et d'une façon qui doit nous convaincre d'aller voir ce film à tout prix. C'est peut-être le temps pour nous de conclure sur ce coup de projecteur par quelques mots de Félix Moiti qui parle justement de ce bonheur de faire un film, de faire un projet et de le livrer à son public au sein d'une équipe et d'un espace cinématographique de rencontre. Et voilà, on sent toute l'énergie qu'il a eu à faire ce film-là.
J'ai trouvé dans le cinéma exactement ce que je cherchais dans la vie, c'est-à-dire sortir de moi-même et à un moment donné être collectivement au service d'un film. Et c'est vrai que ce qui est beau dans le cinéma, c'est la délégation des talents. C'est-à-dire que moi, je serais incapable de construire l'appartement qui est complètement construit par l'équipe déco. Je serais incapable de faire ce que font les acteurs dans mon film. Je serais incapable de prendre le son comme Charlie Cabossel le fait. Voilà, c'est la délégation des talents et la création d'un espace collectif au service de quelque chose, et ce quelque chose étant la grâce de Mathieu Capella, par exemple, ou les larmes de Vincent, ou le moment de longue confession de Benoît Poulvorde, que collectivement on soit au service de rendre justice à des acteurs qui nous font la grâce d'être filmés. Alors on leur fait la grâce d'être regardés tous ensemble sur un plateau, quoi. Voilà. C'est ça qui est beau dans le cinéma. Enfin, c'est un métier où on a le droit de se rencontrer sans avoir peur. Donc c'est beau.
On
passe au conseil de la semaine avec tout d'abord un film, Le Mystère Henri Pic, qui est le dernier film qui sort avec donc Camille Cotin et Lucchini de Rémy Besançon. Donc, pour parler rapidement du synopsis, dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller, mais son auteur, Henri Pic, un pizzaiolo breton décédé 2 ans plus tôt, n'aurait, selon sa veuve, jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire, interprété par Lucchini du coup, décide de mener l'enquête avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pic, Camille Cotin.
Les dernières heures d'une histoire d'amour de l'énigmatique Henri Pic. Véritable triomphe littéraire. Madeleine Pic, je pose la question tout haut que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman ?
Vous êtes en train de vous moquer de mon mari.
Non mais vous l'imaginez, le pizzaiolo breton qui pond un bouquin de cette envergure ?
Mais sérieusement, toi, tu vois papa écrire ça entre 2 fournées de pizza ?
J'ignore qui a écrit ce livre, mais je vais trouver.
Du côté du patrimoine, pardon, c'est Les Reclus de Bertolucci, sorti en 1962, c'est son premier film, qui passe toute la semaine au cinéma, le cinéma de Lyon, en copie restaurée. Donc c'est l'histoire donc, d'un corps d'une prostituée retrouvée sur les rives du Tibre. Et enfin, l'événement que nous présente rapidement Ellie, c'est le festival Écran Mixte, dont la 9e édition se tiendra du 6 au 14 mars. Donc c'est le festival du cinéma queer de Lyon.
Bah écoutez, moi j'ai vu que la bande-annonce hier soir dans un cinéma de l'Institut Lumière, donc ça m'avait l'air très 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 charmant. Donc il y a James Ivory qui est un réalisateur américain assez important, bon, je crois qu'il est assez âgé aussi aujourd'hui.
La grande invitation du festival.
Oui, c'est ça, c'est la star un petit peu qui a fait. Moi, j'ai vu son film Shakespeare Wala, qu'il a tourné en Inde. Enfin, ses admirateurs le considèrent comme son meilleur film. Après, je crois qu'il a scénarisé Call Me by Your Name, mais c'est pour. Il a un Oscar récemment pour ça. Bon, c'est une figure. Voilà.
Donc, pour les curieux, allez voir ouais. Le festival Les Écrans Mixtes.
Okay, soldier. I'm coming out. Okay, soldier. I got no gun and I'm coming out. Soldier!
C'était donc la 114e émission de D'étoiles plein les yeux. On vous retrouvera la semaine prochaine pour Les Éternels de Giazanke. Merci à Marie, Ellie et Martin.
Calm down.